Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
La création artistique, du moins dans certaines de ces manifestations, est une activité qui relève de la représentation. Et donc certaines œuvres vont poser la question des limites de la représentation et donc la question de l'irreprésentable. Et ces limites de la représentation, d'ailleurs on va le voir dans cette chronique westernosophique, elles peuvent être de nature très diverse, très différente. Pour aborder ce thème, je voudrais parler d'une œuvre d'André de Tote, réalisée en 1959 et titrée « La chevauchée des bannis ». C'est une œuvre qui m'a été révélée par un ami, Guillaume Mont-Saint-Jean, donc je voudrais lui dédier cette chronique, puisque c'est lui qui m'a prêté ce film, et notamment l'édition chez Wildside Video, qui est intéressante parce qu'elle est accompagnée d'un texte, d'un petit livre de Philippe Garnier, qui est donc un commentaire du film. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'œuvre d'art parfois représente. Et toute représentation suppose des codes. Des codes plus ou moins contraignants, plus ou moins déterminants. Et beaucoup d'artistes, en fait, vont se situer par rapport à ces codes et parfois même en les mettant en crise, en les mettant en question. Dans l'Hollywood de l'âge classique, le cinéma est dominé par des codes de différents types, des codes formels, esthétiques, et puis aussi des codes moraux. Et les deux sont souvent liés d'ailleurs, hein, il faut le remarquer, puisque la liberté formelle est souvent assimilée par les tenants de l'ordre comme une transgression morale. Et à l'inverse, plutôt dans le même sens, d'ailleurs, les artistes qui interrogent les codes moraux sont souvent les mêmes qui interrogent aussi les codes esthétiques et formels. On pourrait penser à la peinture de Goya, par exemple, comme un exemple tout à fait typique de ce double questionnement, finalement, hein, des valeurs morales et des codes de représentation. Alors d'abord, De Tote, dans ce film, il impose le noir et blanc, à l'époque où la couleur est complètement triomphante. Et voilà ce que déclare De Tote par rapport à ce film. « Je voulais raconter une histoire pleine de peur et de tension au milieu de la neige. Comment raconter ça avec le vert des sapins et le rouge des chemises? C'était tout de suite joyeux Noël. » Fin de citation. Donc effectivement, ce thème de la neige, il va être important puisque dans ce film, le rôle de la météo, le rôle des conditions climatiques est absolument central. On pourrait penser d'ailleurs à certains égards à un film comme Shining de Stanley Kubrick, hein, là aussi avec cette idée d'un enfermement par la neige en fait. Et surtout dans la dernière partie du film, La chevauchée des bannis, quand la troupe de cavaliers en fait va avancer à la fois vers la mort, puisque de fait on sait qu'ils avancent vers la mort, et en avançant vers la mort, ils avancent vers le blanc. Ils avancent vers l'indifférencié, ils avancent vers, comme disaient les Grecs, vers l'apeiron, c'est-à-dire ce qui n'a plus de limite, ce qui n'a plus de forme. Hein. Il y a une sorte de, dans la dernière partie du film, de dissolution des formes et qui là aussi nous place tout à fait aux limites de la représentation. Là aussi on pourrait penser à des peintres, on pourrait penser à un peintre comme Turner par exemple, hein, qui aimait bien justement filmer des paysages en train de se défaire ou des paysages à peine visibles, c'est-à-dire justement des paysages difficiles à représenter. De manière plus humoristique, on pourrait penser aussi à Alphonse Allais, hein, qui a produit à la fin du 19e des monochromes, bien avant Malevitch, Rodchenko et les autres. Notamment, par exemple, il y a un monochrome d'Allais qui s'appelle « Première communion de jeunes filles chlorotiques », c'est-à-dire anémiées, partant de neige. Donc c'est un monochrome blanc, bien sûr. Et le film de Tote aussi, à la fin, il tend un peu vers cet effacement des formes, vers le blanc, vers l'indifférencié. Cette impression de dissolution, d'ailleurs, Elle est accentuée vers la fin du film par la lenteur des fondus enchaînés qui, là aussi, en fait, font s'interpénétrer les formes et nous font toucher, là encore, les limites de la représentation, les limites de la forme. À la fin du film, donc tout se défait, aussi bien le groupe que le paysage. Comme si, là encore, en fait, d'une certaine manière, de Todd poussait la représentation jusqu'à sa limite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il interroge aussi les limites morales de la représentation. Une des clés du film, finalement, c'est que ce film raconte l'histoire d'un groupe d'hommes et de femmes, et c'est surtout les femmes qui vont être importantes, un groupe, donc, qui se trouve à la merci d'une bande de hors-la-loi qui ne rêve que de violer, de boire et de tuer. Sauf que cette bande de hors-la-loi est elle-même sous la domination d'un chef qui s'appelle le Capitaine Brune dans le film, d'un chef qui interdit absolument de boire, de violer et de tuer, enfin, du moins de tuer sauf exception. Et à la 20e minute du film, il le dit, pas de femme, pas de tuerie, pas de whisky. Et cet interdit, il va être en fait le moteur narratif du film. Puisque pendant tout le récit, les bandits vont sembler prêts à exploser sous cet interdit. Et ces bandits qui sont prêts à exploser, ils font un peu penser à un cinéma qui lui aussi est prêt à exploser d'une certaine manière à la fin des années 50. Il est prêt à exploser sous la pression du code ICE. Alors le code ICE, bien sûr, c'est le code moral qui a régné sur Hollywood entre le milieu des années 30 en gros et la fin des années 60, qui est rédigé donc par des juristes mais inspiré aussi par des religieux. Et qui pose en fait une série d'interdits, une série très longue d'interdits. Il est intéressant d'ailleurs de le lire en entier. Notamment, le code ICE interdit les scènes de sexe explicites. Il interdit de donner une image positive des criminels. Il interdit aussi de donner une image positive de l'adultère. Et La Chevauchée des Bannis, c'est un film qui va jouer notamment avec ces trois interdits-là. Alors l'interdit, comme souvent en art, c'est aussi une source de créativité. Paradoxalement, le code ICE a obligé les cinéastes à parler de sexe, à parler de crime, à parler d'adultère et d'autres choses, en détournant en fait le code, en utilisant par exemple des métaphores. Pensons à une des plus célèbres d'entre elles, c'est la fin de la mort aux trousses d'Hitchcock par exemple. Mais dans le film La Chevauchée des Bannis, les métaphores sont nombreuses aussi. Par exemple, à la fin du film, un des bandits est incapable de tirer avec son fusil parce qu'il a les doigts gelés. Et là, cette scène, on peut la voir comme une métaphore de l'impuissance sexuelle puisque les bandits dans le film ont été castrés en quelque sorte par le capitaine qui leur a interdit de passer à l'acte. La métaphore, c'est aussi un grand trophée de chasse dans le saloon avec des cornes immenses. Et donc c'est un élan probablement. Ces cornes, elles vont symboliser aussi l'adultère qui est un des points centraux du film. D'ailleurs, il y a plusieurs fois des personnages qui se situent, on dirait que c'est eux qui ont des cornes, hein, si on est attentif aux images. Alors, je me référerai donc ici au texte justement de Philippe Garnier, que j'évoquais tout à l'heure là dans l'édition du film. Le texte qui est donc titré « Noir comme neige » et qui explique justement que dans les années 50, le western étant un genre un petit peu méprisé, eh bien la censure y était un petit peu moins vigilante que dans d'autres genres. Alors, un petit peu moins vigilante, ça veut dire qu'elle l'est quand même. Notamment dans le film de Todd, une scène a été supprimée, une scène de violence sexuelle qui a été supprimée du film et qu'on ne connaît que grâce aux photos de tournage en fait. Hein. Et donc tout le film en fait va jouer sur cette frustration. Frustration des bandits, qui ne peuvent pas donc violer, tuer, boire comme ils en ont envie, et frustration d'une certaine manière du spectateur lui-même, hein, puisque les attentes peuvent être déçues. D'ailleurs, c'est assez intéressant, puisque dans le livre, on voit que les affiches et les éléments de communication autour du film montraient l'actrice très, très sexy, Tina Louise, qui a un rôle central dans le film, dévêtue, alors qu'en fait, dans le film lui-même, on la voit toujours très, très couverte, et donc là, il y a quelque chose qui ne peut pas être vu, et un désir qui ne peut pas se satisfaire. À cet égard, la scène la plus marquante, c'est sans doute la scène du bal, puisqu'à un moment, le capitaine Brune concède quand même à ses hommes qui peuvent organiser un bal, si ce n'est un viol collectif, mais au moins un bal. Et là, c'est une scène d'une tension extrême, hein, d'une violence à peine retenue. Je cite quelques phrases. Il y a un des bandits qui dit d'un autre « Tex va éclater ». Il y a un autre bandit qui, en dansant avec une fille, lui dit « Ah, si j'étais sous, vous verriez un peu. » Oui, donc on est vraiment ici dans quelque chose d'extrêmement tendu. Et les codes formels eux-mêmes tanguent à ce moment-là. Hein. Les codes formels sont un peu défaits. Par exemple, on peut noter une durée assez excessive des plans et puis aussi surtout des panoramiques virevoltants à 360 degrés hein, qui dérèglent un peu la perception du spectateur. On a l'impression, en fait, dans cette scène, on a une impression d'affolement, comme si la liberté s'affolait et comme si, d'une certaine manière, était préfiguré ici l'affolement de l'Amérique face aux libertés que prendra le nouvel Hollywood 10 ans plus tard, le nouvel Hollywood qui, justement, sera symbolisé par la fin du Code Hays, justement.
Pourquoi est-ce que vous faites des choses pareilles ?
Il y a des choses pires, madame, que de danser avec des hommes seuls.
Partez, laissez-nous.
Bientôt.
Shorty !
La fin du Code Hays, je le disais tout à l'heure, le code, il interdisait de présenter les hors-la-loi sous un jour favorable. Il fallait pas donner envie aux gens de devenir criminels, donc le criminel devait être présenté sous un jour défavorable. Et là aussi, André de Tott, il détourne un peu ce code, puisque le personnage central dans le film, c'est moins Robert Ryan, c'est-à-dire le héros, entre guillemets, que le méchant, en fait, le chef des méchants, le fameux Capitaine Brune, qui est absolument excellent dans le film. Et cet homme, il est marqué par une tâche originelle, par une faute originelle, comme souvent dans les westerns. Et il va être donc tout le long du film, en fait, un mélange de d'hommes blessés, d'hommes qui a peut-être aussi envie d'une forme de rédemption malgré tout, même s'il est à la tête d'une horde de hors-la-loi. Et donc, il produit un mélange comme ça assez étonnant de violence et de bonhomie, même d'élégance, qui en fait un personnage tout à fait fascinant. D'ailleurs, Philippe Jordan, qui était co-scénariste de ce film, disait, je cite, « Il faut passer plus de temps sur le méchant que sur le héros, car le héros va se retrouver magnifié dans le reflet du méchant. » Fin de citation. Et donc, effectivement, dans le film, va s'établir un jeu de relations très complexe entre, d'un côté, le méchant, le capitaine Brune, et de l'autre, le héros, entre guillemets, donc interprété par Robert Ryan. Mais en fait, il faut mettre des guillemets, c'est pas vraiment un héros non plus. D'ailleurs, il y a une scène où il se regarde dans un miroir, et puis plus tard, il parle de lui-même en disant « Je ne vaux pas mieux que c'est hors la loi, mais eux, au moins, ne font pas semblant d'être autre chose. » Fin de citation. Alors, on l'a vu, hein, le Code Hays, donc c'était une contrainte très forte, mais c'était aussi finalement une contrainte féconde, dans la mesure où elle a forcé les cinéastes à dire tout en ne disant pas, à montrer aussi tout en ne montrant pas tout à fait. Dans la prochaine chronique westernosophique, je continuerai à réfléchir sur cette question de l'interdit, du tabou, de la censure. Et je continuerai donc à explorer ce thème du refoulé dans le cinéma américain, puisque je consacrerai une chronique à la relation complexe entre le genre western et la question de l'homosexualité.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.